J'ai découvert la religieuse à New York en 2006 lors de la rétrospective Rivette et j'avais littéralement risqué ma vie pour aller à cette rétrospective en prenant le volant pour la première fois à New York toute seule. Et donc, il me l'a bien rendu puisque Indigeste, c'est le verdict d'Annie Ernaux à propos de la religieuse de Diderot, interviewée par Laure Murat dans un essai qui est intitulé Relire. Cela dit, la vie d'Annie Ernaux n'est pas partagée par tous. Et à preuve, le producteur de Rivette, Georges de Beauregard, donc, avait déclaré « J'ai relu la religieuse, ça ferait un sujet formidable ». Alors, Diderot, formidable ou indigeste, la question qui va nous retenir aujourd'hui sera plutôt « Qu'en est-il de Diderot, revu par Rivette ?» Rivette athée s'est-il lancé donc de son plein gré dans cette aventure ou est-il un cinéaste sous influence ? En tout cas, il est non seulement poussé vivement par son producteur, mais aussi par le scénariste de son film précédent, Paris nous appartient, film à la gestation laborieuse, au point que je cite Valérie Vigneault, l'adaptation donc de Diderot a pu sembler offrir le recul historique nécessaire pour prendre de la distance par rapport à ce premier long-métrage. Gruau, en effet, est un ancien séminariste, très anticlérical, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois alors qu'il était déjà très âgé, et je peux témoigner, il était très anticlérical. Et donc, il est évidemment directement concerné par ce pamphlet de Diderot contre les couvents, quoiqu'il balaye cette raison personnelle d'un revers de main dans ses mémoires intitulées « Ce que dit l'autre ». Alors, je vais vous lire maintenant le résumé proposé par Wikipédia du film. Au XVIIIe siècle, Suzanne Simonin, née de père inconnu et cloîtrée contre son gré par ses parents, qui la destine à la vie conventuelle sans qu'elle en ait la vocation. Rebelle à toute autorité et désirant retourner à la vie civile, elle subira la cruauté d'une abbesse sadique qui lui infligera humiliations et tortures, la croyant possédée par le diable. Suzanne obtient sa mutation par voie juridique dans un autre couvent, dont l'ambiance est beaucoup plus dilettante et dans lequel elle sera confrontée aux avances amoureuses et sexuelles de sa nouvelle abbesse. Finalement, Suzanne se suicide en se jetant dans un puits. Alors, je rajoute, c'est faux, ne jamais faire confiance à Wikipédia, puisqu'elle se jette par la fenêtre. Mais bon. Rivette a confié avoir trouvé le tournage ennuyeux. Et il aurait pu résumer ses déboires ainsi par une phrase qu'on entend dans un de ses films ultérieurs, « L'amour par terre », « C'est pas du tout ma pointure, Arthur ». Phrase sur le modèle de celle d'À bout de souffle, « On fonce, Alphonse », qui d'ailleurs devient dans le film « Céline et Julie vont en bateau »,« Je fonce, Alphonse ». Et j'ai l'air de faire une digression, mais cette boutade me ramène en fait au vif du sujet, car « on » ou « je », c'est aussi la question, pourrait-on dire. En effet, cette adaptation sous le signe de l'autorité de Diderot devient pesante aux yeux de ce jeune réalisateur estampillé Nouvelle Vague. Le titre de mon intervention est une allusion à une déclaration du faux-père de Suzanne Simonin, donc à 8 minutes du début du film, je cite « Je veux en finir ». Il s'agit donc de régler le sort du personnage que j'appellerai dorénavant Suzanne. Suzanne Simonin, ça renverra au film de Rivette. Et la religieuse, là, ça sera un peu la confusion selon les cas. J'espère que vous y retrouverez. Alors, Suzanne, dont il est dit dans le roman et dans le film, « Marcher sur elle, ce n'est qu'un cadavre ». Et on voit dans le film donc les sœurs défiler à qui mieux pour enjamber donc Suzanne qui n'est pourtant pas un cadavre. Rivette a lui très envie aussi d'enjamber cette adaptation pour passer à autre chose. Sauf que l'œuvre entre dans l'histoire en raison du retentissement qu'a le film à cause de la censure qui infléchit donc sa réception. Suzanne Simonin est un film qui a fait beaucoup parler de lui, une sortie avec force rebondissement qui a bénéficié d'une reconnaissance bien au-delà de celle escomptée en raison du scandale provoqué par la censure dont il a fait l'objet. Donc, je ne rappelle pas les faits, si ce n'est que Bourges, secrétariat d'État à l'information, avait interdit le film, donc sous la pression de religieuses. Voilà. Donc, le film est finalement sorti le 26 juillet 1967 et il avait été présenté l'année précédente au Festival de Cannes. Bon. Pourtant, Rivette n'avait manifestement aucunement l'ambition de choquer ni de susciter la curiosité voyeuriste avec ce film. Alors, Beauregard, de façon très courageuse, a défendu bec et ongle le film. Une pétition a rassemblé plusieurs signataires et Godard s'est aussi lancé dans le combat. Bon, tout ça est relaté très bien et bien mieux que je ne ferai donc par Antoine de Bec dans sa biographie de Godard. Je rappelle juste, dans Le Monde, il écrit « Ils ont arrêté Suzanne ». Et puis, il renchérit après dans Le Nouvel Observateur, une lettre à André Malraux cette fois-ci, « Quand je vous parle à propos de Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, d'assassinat ». Voilà, donc un film censuré. Bon. Or, dans un film ultérieur de Rivette qui s'appelle « Duel ». A lieu une rencontre dans un jardin public entre deux personnages, dont une qui est incarnée par Juliette Berthaud, et l'autre qui lui dit « Une fille m'a demandé du secours et a été assassinée ». Or, à ce moment-là, dans la bande-son, résonnent des cloches. Et donc, comme pour inviter en fait le spectateur à établir un parallèle et à se demander si un rendez-vous n'a pas été partiellement manqué avec entre peut-être Yvette et la religieuse. La religieuse, en effet, n'imprègne-t-elle pas toute l'œuvre de Rivette ? Dans Le Pont du Nord, Bulogier dit de Pascal Augier, Baptiste, c'est quelqu'un qui me suit comme une ombre. De même, la religieuse anticipe et suit aussi tous les personnages de l'œuvre. Tout se passe comme si l'adaptation du roman ne cessait de se faire, éclatée au film de la filmographie. Donc, nous verrons en quoi cette religieuse revenante, sous différentes formes, contentera juste d'esquisser à défaut d'être exhaustif, donc permet-elle d'esquisser un nouveau cinéma. Voilà, donc je vais commencer par étudier le jeu impossible, et ensuite dans une deuxième partie, on verra les différents retours de la religieuse, donc dans la suite de l'œuvre. Donc tout d'abord, il s'agit d'un film très dépouillé. D'emblée, on peut dire que ce n'est pas le film, de même que ce que n'était pas la pièce, parce qu'il y a eu une pièce préalablement qui a été jouée au studio des Champs-Élysées, donc en 1963. Et donc ce que ce n'était pas pour Yvette, c'est, je cite, un divertissement de samedi soir, pour reprendre donc une expression qu'il utilise dans un de ses articles. Bien que on se rend compte que Claude Didi faisait ses classes au cadre, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc c'est un film effectivement très sobre, très austère, caractérisé par sa froideur. Pourtant, le motif du battement de cœur contredit ce prétendu caractère glacial, ou du moins cette distance donc sert de faire valoir au lyrisme. Alors, je ne vais pas vous montrer l'extrait, car je crains que le battement de cœur ne soit guère audible. On l'entend très bien avec quelque chose dans les oreilles, mais ce n'est pas suffisamment spectaculaire. C'est un effet qui est assez discret, mais peut-être qui est d'autant plus intime qu'il est discret. Alors, croyez-moi sur parole, et si vous ne me croyez pas moi, croyez Jean-Louis Letra, qui a été également sensible à ce battement de cœur. Alors, l'extrait donc, dans lequel figure ce battement de cœur, donc Suzanne est confrontée à la fameuse mère supérieure sadique, et Suzanne s'excuse de ses excès. La mère supérieure sort, laisse Suzanne seule, et là, on entend donc ce tam-tam. Jean-Louis Letra parle de « comme un battement de cœur », en fait, « comme un », ou « comme un souffle », « comme un rythme ». Bon. Et ça traduit évidemment l'émotion de l'héroïne. Et le motif du battement est repris de façon insistante, cette fois-ci, non pas, par le fait que la sœur Christine, juste après, donc, dans la scène suivante, tape avec le bréviaire. Donc il y a à nouveau un battement qui vient souligner, je dirais, ce qui était très ténu et qui était très sensible juste avant. Alors s'observe une certaine pudeur des mouvements de caméra dans cette scène qui suit. C'est très sobre. La caméra s'éloigne à ce moment-là de la religieuse qui est en train de pleurer en entendant toutes les interdictions dont elle est frappée. Le filmage refuse alors le pathétique trop spectaculaire et refuse une certaine obscénité du voyeurisme qui est dénoncée par ailleurs par le dévoilement progressif de la ligne de sœur qu'on aperçoit, qui se découvre dans le prolongement donc de l'héroïne et qui, elle, détourne le regard vers l'objet du scandale, à savoir donc Suzanne. Dans un article des Cahiers du cinéma, Rivette, en amateur inconditionnel de Corneille, pourfendeur de la médiocrité, Rivette donc se fait critique du film « I Confess » de Hitchcock, qui met en scène le martyr d'un prêtre innocent accusé à la place d'un autre. Et je cite donc un extrait de sa prose. « Je proposerai donc que l'émotion n'est pas la fin de l'art et que l'on peut reconnaître en Hitchcock le même souci qui guide désormais Renoir et Rossellini d'abstraire du cœur ce qui ne vient pas de l'âme. » Et je retiens la formule qui peut s'appliquer au film film Suzanne Simonin. Donc pas d'attendrissement superflu, artificiel, mais un lyrisme dépouillé. Un lyrisme dépouillé qui s'exprime entre autres par ce son du battement de cœur, pourtant très discret. Alors, cependant, Jean-Louis Letra, dans son article consacré au film, qui s'appelle, alors c'est un clin d'œil, le titre du film, c'est un clin d'œil à Romère, ça s'appelle « La carrière de Suzanne », Jean-Louis Letra, donc, n'exploite pas ce battement de cœur. Il le remarque, mais à mon avis, il n'en fait pas assez grand cas, et je pense qu'il faut aller plus loin, parce que, loin d'être anecdotique, il me semble que c'est une réminiscence, enfin, Jean-Louis Letra ne dit pas du tout que c'est anecdotique, c'est pas ça, mais il me semble que c'est une réminiscence à un film de Melville qui s'appelle « Les enfants terribles », film de 1950. Alors, c'est pas Melville qui compte, hein, parce que, en fait, Rivette ne se préoccupe que de Cocteau, puisque le livre est adapté donc du roman de Cocteau. Et je rappelle que Cocteau donc est à l'origine de la vocation de Rivette, hein, selon les propres dires de Rivette, hein, puisque c'était la lecture du journal de tournage de La Belle et la Bête qui a été absolument décisif. Hein. Donc, je pense que le film Les Enfants Terribles, là, de Melville, porte sur, qui porte par ailleurs donc sur la relation très forte, hein, incestueuse en l'occurrence, entre un frère et une sœur, est également aussi, je dirais, enfin, je pense que donc Rivette fait un hommage à ce film par ce battement de cœur, un film sur lequel il a écrit en 1964, c'est-à-dire juste avant en fait de tourner le film Suzanne Simonin. Et ça me paraît d'autant plus approprié en fait que à l'origine du texte de Diderot, il y a un épisode autobiographique, c'est-à-dire qu'il a perdu sa propre sœur, donc Diderot, hein, qui est morte folle, donc dans un couvent. Sa sœur qui s'appelait Angélique, hein, qui a été qui est morte dans un couvent. Donc évidemment là le rapport à une histoire entre un frère et une sœur peut être d'autant plus pertinent. Voilà. Le thème de l'inceste, par ailleurs, sera repris et récurrent dans les films de Rivette, hein, pensons bon, Secret Défense, par exemple, mais d'autres films. Alors, qu'écrit Rivette, hein, de ce film? Il écrit « Chaque plan est joué à fond, au maximum de la mise, comme à tout va et pour lui seul. Chaque cellule est calligraphie, mais du coup de pinceau instantané et sans retouche des moines zénistes. » Donc Rivette, s'il ne commente pas au cours de l'article le battement de cœur en question, analyse cependant le film comme un organisme vivant. Hein, et je renvoie au terme utilisé, donc au terme cellule. Et puis donc chaque plan est pour lui comme une nécessité vitale. En outre, le champ lexical religieux est convoqué, il parle en effet de moines zénistes, hein, ce qui conforte le rapprochement entre le film de Rivette et le film de Cocteau-Melville. Et toute la fin de l'article de Rivette est consacrée à la dualité image-son. Il conclut sur l'éloge de ce triomphe du, je cite, « désaccord qui commande ». Or, c'est bien ici, dans l'extrait que j'aurais voulu vous montrer, le désaccord entre une image assez mélodramatique et d'autre part un son qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus... Alors, le détour par Cocteau permet d'insister également sur la parenté dans les deux univers, hein, du thème du jeu. Le jeu, donc. Alors, le film, c'est une adaptation dont on pourrait dire, comme Jean-Pierre Léo à la fin de Out One Spectre, ça n'a pas marché. Probablement parce que Rivette n'a pu jouer assez à son gré, et ce alors même que Diderot lui tendait une perche qu'il n'a souvent pas prise. Certains passages réjouissants sont en effet écartés, et il y a tout un ton utilisé par Diderot qui est ignoré, au profit donc dans l'adaptation d'une gravité de bon aloi. Rivette n'exploite pas les équivoques comiques, l'ironie érotique, et il n'abuse pas de la rhétorique pleine de rouerie, hein, de Diderot. Alors à cet égard, dans la presse de l'époque, hein, en 67, la réaction de Claude Mauriac dans le Figaro littéraire me semble résumer parfaitement le travail de Rivette. Il parle du rayonnement qui émane du film et dit « Là est le mystère du film, plus encore que du livre, car il y a dans le roman de Diderot un certain ton de dérision et de sarcasme, alors que nous n'en trouvons plus trace dans l'adaptation de Jacques Rivette. » Pourtant, Rivette ne semble pas dénué de l'envie de jouer, puisque au départ, il dit avoir voulu faire la religieuse. Enfin, c'est un jeu de mots, il dit qu'il voulait faire un film cellulaire, puisque... c'était un film sur les cellules des bonnes sœurs. Bon. Et après, il a pu dire que la seule chose amusante, hein, dans le tournage, c'était le problème des décors, qui était fait sur le principe inverse de Paris nous appartient. Il s'agissait de construire complètement deux décors imaginaires, avec des bouts de murs, de couloirs, d'escaliers, filmés à gauche, à droite, dans un rayon de 40 km autour d'Avignon. Chaque fois qu'Anna passe par une porte, donc il s'agit d'actrice, hein, ou qu'on change de plan, c'est un saut de Villeneuve au pont du Gard. C'était vraiment, et là j'insiste, hein, un puzzle, dont on raccordait les morceaux par des trucs d'éclairage, d'ouverture de porte, de changement de vitesse, des choses comme ça. Bon, donc une envie de jouer, et en même temps il ne joue pas suffisamment, puisque par exemple est occulté un aspect important de la genèse du roman de Diderot, à savoir que c'est un roman donc sous forme de mémoire, rédigé à la première personne, qu'une religieuse échappée du couvent adresse au marquis de Croixmar, à Caen d'ailleurs, mais... pour solliciter son aide, mais il s'agit en fait, hein, d'une mystification de ses amis, donc Grimm et Diderot, enfin toute une bande, qui voulait attirer de nouveau à Paris le marquis qui s'était retiré donc en Normandie. Et en 1780, Diderot en reprend l'écriture, s'accaparant un projet commun pour le faire sien, et revendique par là même le statut d'auteur. Or, que cette affabulation collective qui a présidé à la genèse du roman de Diderot soit donc gommée peut sembler paradoxal quand on sait l'importance que revêtira ensuite la troupe dans les films à venir de Rivette. Alors, mais Rivette joue quand même, et là j'insiste, en inventant donc une partie de Colin Maillard, Aller dehors dans le jardin, c'est prendre le large par rapport à Diderot et par rapport à une atmosphère étouffante hein, à l'intérieur donc du couvent. Donc là, il va à l'air libre. Et le Colin Maillard, dont j'ai mis qu'on pourrait l'appeler Nolim et Tanguéré, hein, c'est un jeu qui se joue en groupe. Rivette semble détourner une séquence d'intérieur pour la convertir donc en cette scène de Colin Maillard. Effectivement, lors de la cérémonie de la prise d'habit qui précède le noviciat dans le roman, et là je cite Diderot, donc je vous lis l'extrait, « Je n'entendais rien, je ne voyais rien, j'étais stupide, on me menait et j'allais, et je restais au milieu du troupeau auquel on venait de m'associer. » Il s'agit bien sûr du troupeau des sœurs, donc on peut retrouver ici le troupeau des sœurs. Ce faisant, Rivette allège cette scène oppressante en huis clos, donc dans le texte de Diderot. Cet extrait met en valeur le statut exceptionnel de Suzanne, à part, mise hors jeu. Elle se retire du jeu, ce qui correspond à l'intrigue principale, puisqu'elle veut quitter donc, le jeu religieux du couvent auquel elle n'adhère pas. Alors c'est une fervente croyante, hein, et chez Diderot, et dans le film, mais elle n'a pas de vocation. Le bandeau du Colin Maillard, c'est bien sûr, ça exprime l'aveuglement, décliné en aliénation, mauvaise foi, duplicité dans le roman. Et cette partie de Colin Maillard est associée donc ici au chantage exercé par la mère supérieure pour récupérer la dot de l'ancien couvent. Donc le jeu n'est pas placé sous le signe de la gratuité et du désintérêt. Car le jeu apparemment au début innocent, enfantin, se dévoile plus pervers qu'il n'y paraît puisque le cri de Suzanne en dénonce un possible sadisme. Même si ce cri est aussi un subterfuge pour échapper en vain aux avances de la mère supérieure. Avance érotique, mais Rivette, sans édulcorer l'érotisme lesbien donc dans son film, le rend relativement peu scandaleux et choquant. Et la mère supérieure, traitée caricaturalement chez Diderot, devient même après chez Rivette un personnage de spectre presque émouvant qui erre comme une âme damnée. Les excès du corps à l'œuvre chez Diderot sont par lui atténués, écrivait Jean-Louis Letra dans son article. Rivette va s'employer dans le reste de l'œuvre à développer ou amplifier ses excès contenus en ouvrant le champ à l'hystérie et puis en calmant le jeu jusqu'à la sérénité finale du dernier film tout en demi-teinte. Dans la suite de l'œuvre se retrouvent des scènes de Colin Maillard. Donc, alors dans À Haute-Voile, la troupe qui répète le Prométhée enchaîné, et sinon, donc là, bon, là c'est dans la capture dans Norrois, et vous avez une capture donc, tirée de Céline et Julie, où on voit donc, Dominique Laborie et Juliette Barthaud qui enlève le bandeau à la fillette sauvée, hein, une nonne devenue enfant qui veut encore jouer, puisqu'en fait ça reprend l'inscription derrière la photo, l'enfant qui est devenu une nonne. Alors, terminons donc. Oui, alors dans Nos Rois, on voit que là, c'est une séquence de jour, mais il y a aussi une séquence nocturne beaucoup plus inquiétante, hein, proche de la sorcellerie. Alors, une autre façon de jouer pour Rivette, hein, c'est de laisser place à l'intrusion d'un chat. Ici, un figurant, un invité surprise hein, qui passe, qui déambule. Donc, anonyme ici, mais qui sera appelé à prendre plus de place dans les films ultérieurs, Nevermore. Donc ici, un passage nonchalant. Comme si Rivette avait besoin d'une dimension plus corporelle, plus animale, plus diabolique. Le chat aussi qui permet de faire voler en éclats la frontière entre le sacré, l'intouchable, et le quotidien, le vivant. Quand Suzanne, elle, se risque dans le cœur, c'est pour anticiper sa mort à venir, allongée face contre terre, les bras en croix. Et donc c'est beaucoup plus solennel, beaucoup plus tragique. Il y a des chats également dans Céline et Julie, entre autres le chat final évidemment. Il y a aussi le chat confident à qui Laurence Côte parle dans « Au bas fragile hein. ». Et puis donc dans La Belle Noiseuse, Marianne, interprétée donc par Emmanuel Béart, qui compare Piccoli à un chat, on dirait un chat devant un oiseau. Mais donc en l'absence de jeu possible, ou si peu, l'adaptation donc est aux yeux de Rivette source d'ennui, donc au moment du tournage, car sans surprise, souvenons-nous donc de ces propos de Céline et Julie, « Dois-je venir à bout de ce récit funeste ?» demande Marie-France Pisier. « Ma chère amie, ce que vous avez entrepris, il faut le mener à bien, » répond Barbette Schroeder. Donc mener à bien son ouvrage, c'est laborieux, fastidieux. Donc, en finir ou pas, nous allons aborder maintenant la question du dénouement. Une fois évadé, donc je vous rappelle brièvement les faits de passé, grâce à l'aide d'un prêtre défroqué qui tente de la violer, hein, c'est pas léger. Hein, Suzanne finit par devoir faire la mendicité dans la rue et est recueillie par une femme qui l'emmène. Après une ellipse, elle se retrouve face à un miroir et elle est alors maquillée par des jeunes femmes qui s'affairent autour d'elle. Une servante vient lui apprendre que sa lettre est restée sans réponse car Monsieur Manoury, son avocat, est décédé. La scène est un dîner masqué où des hommes rencontrent des prostituées. Suzanne subitement se dirige vers la fenêtre et après s'être signée se défenestre. Alors la scène du dîner, c'est ce qui reste en fait d'une première version du scénario écrite pour plaire au producteur Borgard qui voulait des carrosses partout et un bal masqué. Voilà. Donc finalement, il va falloir attendre le film Ne touchez pas l'âge pour que le bal soit mis en scène, mais il est pour le moment réduit, donc dans le prolongement paradoxal du Colin Maillard, à ce dîner libertin. Alors le couvent d'Arpajon lui gagne ainsi en innocence, en fraîcheur, dans le film hein, de Rivette. L'arrivée de Suzanne y semble une arrivée dans une volière pleine de vie, tandis que la fin est chargée, elle, dans le film en noirceur et en perversité. Les correspondants de la mystification du marquis de Croixmare avaient dû, eux aussi, faire mourir leur religieuse, mais Rivette a l'idée, donc pendant le tournage, de la faire se suicider. La version théâtrale précédant le film se terminait par l'appel au secours de Suzanne. Cette fin radicale, quoique ambiguë, surprend car elle contraste avec l'inachèvement de nombre de films ultérieurs de Rivette. « Tenez-vous-en à votre texte », recommandait à l'héroïne de Paris nous appartient l'ami du metteur en scène fictif. Et ici, Rivette désobéit donc à cette injonction en s'éloignant de Diderot, bien que, selon Valérie Vigneault, cette fin soit plus conforme à la logique d'une vie gâchée. Suzanne, effectivement, est étrangère au milieu dans lequel elle est plongée, que ce soit le couvent ou ici le monde libertin. En effet, on peut dire de Suzanne Simonin la même chose que Marcon, l'acteur, parlant de Marianne de Nicourt dans « Au bas fragile ». Elle n'est pas de ce siècle, elle est l'innocence, la pureté. Pensons à la citation de Bossuet dite par la voix off au début du film, donc Suzanne Simonin de Rivette. « Si vous ne ressentez pas un extrême dégoût du monde, sortez, madame, de cette clôture. » On peut donc interpréter aussi ce suicide comme un rejet de ce monde. « Tous les murs peuvent s'abattre », sera-t-il dit dans le film « Duel », film ultérieur de Rivette. Suffit-il de changer de décor pour éprouver la liberté? Non, à en croire le destin de la religieuse, qui est tout aussi aliénée en dehors du couvent. Les masques du dîner libertin final sont une variante du bandeau du Colin Maillard. L'aptitude à se travestir, c'est ce que ne peut pas Suzanne, qui est incapable d'hypocrisie dans tous les sens du terme. Et dans Suzanne Simonin, donc film de Rivette, Anna Karenina incarne un personnage plus droit et plus innocent que celui de Diderot, qui est plus trouble qu'il n'y paraît, non dénué de duplicité. Donc c'est une des grandes différences avec le texte adapté aussi. Dans l'émission Cinéaste de notre temps de Claire Denis, consacrée donc à Rivette, il confie que le sacrifice d'un personnage innocent dans le Pont du Nord a lieu pour que les choses puissent continuer. N'est-ce pas aussi le cas ici, comme si Rivette cherchait à se débarrasser de Suzanne pour pouvoir aller de l'avant. Donc tout se passe comme si la suite de l'œuvre tentait de réparer ses torts après, d'adoucir le sort de Suzanne, ou du moins de conjurer la fatalité. Donc soit tentative de consoler Suzanne par le relais de ses avatars, la Louise de Au bas fragile par exemple, soit consoler l'entourage, citons la fin de donc Ne touchez pas la hache, qui relativise, dédramatise, enfin on aura l'occasion d'en reparler. Alors venons-en maintenant aux différents retours de la religieuse dans la suite de l'œuvre. Alors en ce qui concerne ce qui concerne la bande sonore, bon, il y a une musique qui est une musique contemporaine. Alors, pour Paris nous appartient, le film précédent de Rivette, le modèle c'est Bartok, et pour la religieuse, le modèle c'est Boulez. Et donc, il y a une espèce de parenté entre les deux films, puisque ça va conférer une sorte de malaise, une sorte de un peu de parfum, d'absurde, d'existentialisme aux deux films. Donc, ça, une espèce de continuité entre les deux. Alors, mais par ailleurs, il y a également beaucoup de bruits qui sont très très bien et très minutieusement commentés par Valérie Vigneault dans son ouvrage sur la religieuse. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais privilégier un son que je vais étudier davantage, qui est donc le retour des sons de cloche dans la suite de l'œuvre. Dans Paris nous appartient, Esposito déclare « Ils ont beau partir aux quatre coins du globe, ils n'en sont pas moins enfermés. » Et le leitmotiv des cloches va prouver qu'on n'échappe pas à l'enfermement de la religieuse, bien que changeant de film de Rivette. Valérie Vigneault écrit à propos de l'orage dans Suzanne Simonin de Rivette. L'orage, dans son épaisseur sonore, est un coup de tonnerre, un coup de théâtre. Bien sûr, on peut en dire autant des cloches. Je dirais surtout des cloches, parce que les cloches, c'est vraiment l'orage de Rivette, en fait. Alors, c'est par excellence le début de le film, où là, on a des cloches, et c'est très insistant, et qui sont associées aux trois coups de bâton, et trois coups de bâton, évidemment, dans tous les sens du terme. Et je rappelle que le début des Enfants terribles, c'était déjà des cloches avec un roulement de tambour. Donc là, il y a une filiation poétique très claire. Cela dit, les cloches apportent-elles une épaisseur sonore, selon l'expression, donc à connotation positive de Valérie Vigneault, ou bien de la pesanteur, Le début de la religieuse, c'est plutôt de la pesanteur. Donc, connotation négative, évidemment. Le son des cloches est récurrent, donc il est plus ou moins élevé, plus ou moins sonore, et il marque, là je suis tout à fait d'accord évidemment avec Valérie Vigneault, une rupture, une discordance sonore. Et je dirais que c'est pareil dans les films à venir. Soit il y a une rupture temporelle. Les cloches théâtralisent le début ou la fin des films. Par exemple, à la fin de L'amour par terre, le générique de fin, on a des cloches qui sonnent. Ou alors, il s'agit d'une rupture au sens spatial. Et la cloche souligne alors un seuil, une frontière, l'entrée donc dans un autre monde. C'est dans Céline et Julie, lorsqu'elles entrent dans la maison, évidemment, il y a un petit son de cloche à ce moment-là et un chien qui passe aussi qui souligne. Mais il me semble que c'est plus que ça et qu'il y a une signification supplémentaire à aller chercher peut-être du côté donc du motif de la vocation ou de la quête artistique. Alors, le seul son de la cloche fait ressurgir la religieuse, la convoque de façon solennelle ou discrète. Alors, par exemple, dans Out One Spectre, Gaëlle Londal donc, et Béatrice Lafont, donc, ils sont dans, dans une maison à la mer et ils lui demandent de venir à Paris pour faire du théâtre avec... elle est écrivaine, pour faire du théâtre avec lui. Et alors, elle dit qu'elle est bouleversée par la proposition du metteur en scène, vient à Paris et Michael Londal lui dit... le personnage qui l'incarne, toi, tu es pleine de ressources cachées. Évidemment, on peut établir un parallèle avec Rivette lui-même, qui joue son Vatou en venant étudier, en venant étudiant donc de Rouen à Paris. Alors, Nicole Lubchansky, qui était sa monteuse depuis L'amour fou, dit, Jacques veut tout conserver, quitte à faire intervenir un autre son, des cloches dehors ou quelque chose comme ça, pour pouvoir nourrir un moment un peu faible ou pour l'aérer. Alors, cette déclaration est surprenante, car l'intention d'aérer est paradoxale, étant donné qu'on associerait davantage les cloches à la gravité en général de l'œuvre. Bon. Mais, et c'est particulièrement pas le cas ici, puisqu'on n'a pas besoin d'aérer, puisqu'il y a cette fenêtre ouverte, il y a la perspective de la mer, il y a quelque chose de très léger. Et puis, le passage, c'est tout un jeu de séduction, c'est très... voilà. Donc, cette atmosphère est à la convivialité, n'ont pas besoin d'aérer. Donc, les cloches ici soulignent vraiment la question de la question de la quête artistique. Dans La Belle Noiseuse, les cloches accompagnent la première entrée dans l'atelier. Et ailleurs dans le film, les cloches résonnent lorsque Jane Birkin, femme du peintre Fraunhofer joué par Piccoli, tourne autour d'Emmanuel Béart, donc Marianne, le modèle de son mari, pour tenter de l'acheter en voulant lui mettre au cou un bijou. Et Emmanuel Béart se rebiffe en criant qu'elle n'est pas une poupée. Le bijou tombe par terre. Jane Birkin feint de minimiser l'incident en disant que c'était un faux. Donc nul mal n'a été fait. Et cette tentative de séduction prosaïque par la compagne du peintre singe l'intérêt d'ordre plus, sinon sacré, du moins pictoral, esthète que lui porte le peintre. Cette scène suggère donc que les cloches dans l'univers de Rivette soulignent aussi souvent l'opposition entre le vrai et le faux. Alors une autre fonction de la cloche, c'est le rappel du collectif, me semble-t-il. La cloche connote un aspect grégaire et renvoie à la manipulation. Et là, je pense à un passage dans Hurlevent, où Catherine tombe dans les bras de son prétendant Olivier, elle pleurniche, le couple tombe dans les bras. Et la caméra s'éloigne, filmant la bonne qui n'est pas dupe du manège séducteur, et on entend un bruit de cloche de troupeau. Donc ici, une petite note comique et une sorte de sentimentalisme surjoué, conventionnel, qui est lié au groupe dans le sens où lié à un conformisme, lié au conformisme en fait d'un mariage bourgeois par opposition donc à la passion. La cloche fonctionne aussi comme bruit assourdissant, ambivalent, qui couvre la voix. Et alors là, je pense à un extrait de Suzanne Simonin, où la mère parle à sa fille, elle se lamente, elle lui fait des reproches, c'est plutôt au début du film, et subitement, il y a un bruit de cloche, et qui devient mais très très fort, qui vraiment rend audible, inaudible, les propos de la mère. Donc là, bien sûr, la cloche revêt une fonction dramatique et pathétique. Le bruit tonitruant amplifie le thème de la fatalité, du malheur, du destin malheureux de l'héroïne et mime l'impossibilité pour Suzanne de se faire entendre par sa famille et la société. Mais il y a aussi une fonction polémique, puisque la mère est comme sanctionnée par la mise en scène qui la censure. Ce chevauchement des sons inéofs dénonce-t-il l'hypocrisie du discours parental ? On peut le supposer. Bon. Faisons un détour par un brouillon de la version théâtrale. C'est quelque chose que vous pouvez consulter aussi sur Internet, puisque le fond Gruau est mis. Le cahier de Gruau sont à disposition sur Internet. Et donc, sur ce brouillon, on voit qu'au tout début, donc il s'agit de la profession de foi, l'officiant demande à Suzanne Simonin : est-ce de votre plein gré que vous êtes ici ? Non. Les deux religieuses, et là il y a une didascalie qui précise, essayant de couvrir sa voix. Donc là, c'est du côté de l'oppression et de l'intolérance, côté religieux. Et à la fin de ce cahier, donc c'était une première version, il y a un effet de boucle, puisque ici, c'est une foule révolutionnaire qui entre dans le cachot de Suzanne. Et à ce moment-là, on a également l'expression, donc couvrir sa voix, mais littéralement. Donc il y a vraiment un parallélisme ici. Les représentants du politique étant renvoyés dos à dos avec les représentants de la religion. Donc il me semble qu'en ce sens, Suzanne est peut-être justement davantage une héroïne du non, une héroïne du retrait, ou du moins qui tente, puisqu'elle est quand même aliénée. Et la mise en scène, elle, me semble-t-il, se définit comme recherche d'une singularité, d'une originalité, fût-elle une recherche en groupe, évidemment, avec une troupe. Alors, j'aimerais étudier maintenant le retour de l'actrice. Donc, Suzanne Simonin a été incarnée par Anna Karina. Alors, dans un article d'art à propos de la pièce de théâtre qui avait été jouée en 1963 au studio des Champs-Élysées, donc avec Anna Karina, Rivette disait qu'il n'était que le vague coordinateur d'une équipe. Son seul mérite avait été, selon lui, de choisir Anna. Et effectivement, elle avait remplacé Betty Schneider, qui jouait dans la version mélodramatique de Gruau, montée à Marseille par Roland Meunaux, et donc jouée précédemment en 60-61. Et il me semble effectivement qu'un élément décisif du jeu d'Anna Karina, qui est danoise d'origine, hein, comme tout le monde sait, ça réside dans son accent étranger. Elle a été choisie aussi parce qu'elle permet de rendre un hommage donc au film muet. Hein, c'était une façon donc de magnifier l'innocence du cinéma des origines, hein, et d'exalter hein, des actrices comme Dorothy et Lillian Gish. Alors, elle revient dans l'œuvre de Rivette après Suzanne Simonin. Elle revient dans un film donc dans Au bas fragile où elle joue donc une chanteuse. Alors là, on la voit dans une salle de jeu, hein, on la voit de dos, en rouge. Et il me semble qu'il faut opérer un petit détour dans un autre film précédent, par Duel, où on voit non pas Anna Karina, mais un double d'Anna Karina, de face, avec une tenue similaire, hein, où il y a un effet quand même, me semble-t-il, de symétrie, puisqu'elle est aussi en train de jouer, et dans une tenue un peu pareille. Bon, j'ouvre une parenthèse, on peut faire un parallèle donc avec Le Cadavre, voilà. Le cadavre hein, dans Ne touchez pas la hache, qu'on voit donc verso, après l'avoir vu à la fin du film La religieuse, recto, face contre terre. Hein, ici, elle est face en l'air. Bon, donc il y a même cette façon d'inverser. Bon. Donc il s'agit au sens propre et figuré de retourner dans tous les sens du terme hein, le personnage et l'actrice. Anna Karina, donc, double revenante, puisqu'elle réincarne aussi dans Au bas fragile le personnage d'un film fantôme, une comédie musicale qui devait clore le cycle des Filles du Feu. Elle devait jouer avec Jean Marais, hein, qui devait jouer un cardinal. Jean Marais, donc acteur de Cocteau, évidemment, je n'insiste pas. Donc le rouge, hein, dans les deux captures que je vous ai montrées, rend manifeste hein, une inversion, un changement de place. Alors dans le film est associée à Anna Karina une chanson, Mon amour perdu, et cette chanson fonctionne, selon Hélène Frappa, comme un monde privé, un monde clos, comme la cellule d'un couvent, ou alors une forteresse. La forteresse, ça renvoie au film Le Roi, ou alors un aquarium, là, ça renvoie à Duel, donc à chaque fois des enfermements. Bon. Et Anna Karina, dans Au bas fragile, elle chante au Sarah Saloon. Alors, Saloon, c'est le lieu possible d'un règlement de compte avec le passé, bien sûr. Sarah, commençant par l'initiale S, comme la Sarah de Sarah Bernard, monstre sacré, à qui Rivette pensait pour un film avec Jeanne Moreau, qui ne s'est jamais fait. Et à qui Anna Karina rend ici aussi hommage dans Au bas fragile, mais il me semble également que Sarah renvoie aussi par l'initiale, bien sûr, à Suzanne Simonin. Alors, dans Au bas fragile, Ida, à la fin, interprétée par Laurence Côte, hein, quitte Anna Karina, dont elle peut penser qu'elle est sa mère, hein, et alors que Anna Karina lui offre une chambre à habiter, elle part en courant et fuit donc cette probable mère retrouvée. Et cette scène réécrit une scène du film Suzanne Simonin, où la religieuse part en courant dans le jardin après son entretien avec l'aimable mère supérieure, Madame de Mauny, qui l'invitait à renoncer à la nature, autant dire à la vie. Alors, donc, quelques jeux de miroir, je poursuis, avec le retour des religieuses. Dans Suzanne Simonin, trois religieuses, hein, la sœur sadique avec, accompagnée de deux autres, et une escorte de la terreur, et puis trois religieuses également, on a l'impression que c'est le même film, mais c'est pas le même film, là, c'est dans Jeanne la Pucelle, hein, voilà, où c'est une autre mère, cette fois-ci, beaucoup plus bienveillante. Dans Jeanne la Pucelle, toujours une oraison de dos, sans le chat d'Agobert qui rôde, et c'est cette présence invisible, fantomatique aussi de la caméra qu'on sent par l'angle hein, derrière, enfin, le fait qu'ils sont filmés de dos. Donc là, trois religieuses, Jeanne, évidemment, Jeanne la Pucelle, mais accompagnée de deux autres religieuses, pas au sens strict cette fois-ci, hein, mais elles sont en train de prier. Donc la question de l'habit, parce que les religieuses portent un habit, donc l'habit est imposé dans Suzanne Simonin, il est revendiqué dans Jeanne la Pucelle, hein, qui tient absolument à porter tel habit et pas un autre. Jeu de travestissement, donc ne touchez pas à la hache, où là on voit quelqu'un, un homme qui se déguise en nonne, et on peut mettre comme commentaire en fait un extrait du film Céline et Julie vont en bateau, enlevez-la, quoi, la robe ou la fille, hein, puisqu'il s'agit d'aller enlever au sens propre une autre religieuse, personnage donc du film Ne touchez pas la hache. Alors une trace rouge unit les héroïnes de Rivette. En effet, la cape que le prêtre Don Morel met sur les épaules de Suzanne lors de son évasion est rouge, et ça correspond à la marque M également qu'on retrouve sur les épaules de Céline et Julie. Bon, ça renvoie à M. Moody, à Fritz Lang et Balzac, enfin bon, et j'en passe. Hein, le rouge marque le secret d'un enfermement en prison, cette captivité étant une malédiction qu'on s'emploie à conjurer. Le rouge serait la brûlure de la mémoire, le feu intérieur qui consume l'être en proie aux souvenirs qui le hantent. Bon, on aura l'occasion de méditer à nouveau ce soir avec le film sur les sens possibles et complexes de la couleur, couleur de la damnation, de la domination, de la séduction diabolique. Et nul doute que si le manteau de fourrure, le vison du premier film Le Coup de Berger, film de 1956 en noir et blanc, avait pu être en couleur, il aurait été rouge. Et j'aimerais vous montrer maintenant deux captures où on voit que c'est j'ai intitulé ça la cape rouge du filmage, donc un extrait de Suzanne Simonin et puis un autre de Noroy, où en fait il y a comme une espèce de filtre rouge hein, sur l'image hein, qui va teinter toute la scène. Donc là, c'est pas simplement le vêtement, hein, c'est vraiment la lumière et le filmage. Et là, j'ai juste noté hein, le poignard embrassé tel un crucifix, donc dans Noroy, où on voit là, qui de loin un peu s'apparenter à un crucifix. Voilà. Alors, quelques autres leitmotivs, donc je passe rapidement hein, sur le secret, bon, parce que tout le côté secret, tout le côté paranoïa, l'espionnage, c'était déjà des choses qui étaient antérieures à Suzanne Simonin, puisqu'on trouve déjà ça dans Paris nous appartient. Hein. L'enfermement, en revanche, hein, ça s'incarne vraiment dans Suzanne Simonin avec le couvent, bon, la forteresse, hein, j'en ai déjà parlé. Ensuite, après, dans Nos Rois et dans d'autres films. Je voudrais aussi insister sur le tableau que Fresno fait en mur dans La Belle Noiseuse, hein, qui va censurer, donc, et en même temps qui va s'opposer au tableau moins parfait et au corps même. Donc l'enfermement qui renvoie toujours par opposition hein, à l'obsession de l'œuvre vivante chez Rivette. On retrouve également le motif du puits, par exemple, dans le film Le Pont du Nord, puisqu'à propos d'un jeu de loi, Bulogier donc explique à Pascal Augier que sa claustrophobie est partie du puits quand elle était petite. Hein, et ce puits, il est présent donc dans Suzanne Simonin. Le puits, c'est aussi une image possible de l'utérus. Hein, donc hein, là, j'en viens au motif du Yann, hein, regressus ad uterum. Alors, on peut montrer les suivantes. Donc c'est pas ça. Voilà. Donc ici, position de fœtus. Donc j'ai pris quelques captures donc dans Nos Rois, hein, dans une grotte, et puis donc dans Histoire de Marie-Julien. Voilà, et donc ça annonce les poses aggravées également de La Belle Noiseuse. J'ai pas pu prendre la capture, hein, mais on voit Emmanuel Béart dans une pose similaire, mais nue cette fois aussi dans La Belle Noiseuse. Les poses aggravées, c'est une très belle expression de Rivette lui-même hein, pour parler donc de La Belle Noiseuse, et ça renvoie à toute la mélancolie donc dans l'ensemble de l'œuvre. Hein, bon, Hélène Frappa explique ça très bien. Alors, le geste décisif de l'évasion vient tout droit également de la religieuse. Donc, quelques images hein, d'évasion et de renaissance. Donc, dans Céline et Julie, qui sortent de la fenêtre, hein, ça ressemble, évidemment, avec une sorte de sexe féminin. Et puis, d'autre part, on va savoir, avec cette sortie magnifique de Jeanne Balibar, de la petite fenêtre hein, par le toit. Alors, on va passer à la suivante. Donc la renaissance hein, qui permet d'échapper à la mélancolie. Alors le motif de la jeune fille attaquée est un motif donc dans Suzanne Simonin et qui est repris évidemment et décliné de nombreuses fois dans les films de Rivette. Alors et cette idée d'aller réveiller une princesse au bois dormant ou alors une jeune fille cloîtrée endormie, ça renvoie dans le texte de Diderot au motif de l'inconscience au moment de la profession de foi, motif que Rivette traite radicalement par l'ellipse. Hein. Et on trouve ça dans d'autres films, par exemple dans Va savoir, le personnage du metteur en scène dit à son ami « Mais où es-tu ? Hier, tu as failli rater le lever du rideau. » Donc cette étrangeté à soi, c'est déjà présent dans la religieuse. Hein. Ou alors, justement, dans l'histoire de Marie et Julien, les nombreuses absences de Marie, hein, qui subitement se fige et qui est ailleurs. Bon. Alors, toujours par rapport, donc, j'enchaîne avec cette question de l'embarquement, de l'enrôlement. Alors l'embarquement, à la fin du film Suzanne Simonin, il y a un carton de Bossuet qui a été rajouté. Voilà une citation de Bossuet donc, que je vous lis. « Et telle que serait la folie d'un homme qui, ne sachant ce que c'est que la navigation, se mettrait sur mer sans pilote, telle est la folie d'une créature qui embrasse la vie religieuse sans avoir la volonté de Dieu pour son guide. » Et bien sûr, Jacques Bénigne Bossuet. Hein, alors, je mets épitaphe à la fin du film Suzanne Simonin ou art poétique pour l'œuvre à venir de Rivette. Hein, hein, partir sans pilote et naviguer. Alors, embarquement, donc, au sens propre dans Nos Rois et dans d'autres films, ne touchez pas la hache aussi, dans Céline et Julie aussi, et puis donc, comme image dans La Belle Noiseuse, hein, Piccoli démoralisé, tenté d'abandonner, et Marianne qui le pousse à se remettre au travail en faisant valoir qu'il l'a embarqué, hein, l'a forcé à partir avec lui. Donc, alors, enrôlement également, et enrôlement même de Rivette lui-même, hein, le réalisateur, en tant que en religieux. En frère de la sœur Suzanne, donc une capture de voilà. Donc c'est sur la droite, vous le voyez. juste là, la silhouette hein, en confesseur. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit bien combien, à partir de la religieuse, il va changer de méthode et de rapport à l'écriture et de rapport au tournage et à la création. Puisque dans... Alors, dans Va savoir, je reviendrai un petit peu pour expliquer après. En fait, il prend l'acteur qui devait jouer le confesseur est pris panique. Hein, c'est pas un acteur professionnel. Et au moment du tournage, il peut pas jouer. Et en fait, c'est Rivette qui revêt la soutane et qui... Et c'est particulièrement judicieux parce que c'est tout à fait conforme donc à cette sorte de fidélité. Enfin, ça fait c'est cohérent donc avec le premier film. Voilà. Alors dans Va savoir donc le metteur en scène Hugo donc que vous avez vu tout à l'heure dans l'extrait hein, joué par Sergio Castellitto qui là c'était dans le film 36 vues du Pic Saint-Loup, mais là je fais allusion à un film précédent Va savoir où il joue donc un metteur en scène d'une pièce de Pirandello, et il part à la recherche d'un manuscrit inédit de Goldoni, dont la découverte pourrait sauver la troupe sur le plan financier. Et il se moque de lui à un moment donné, il est dans une bibliothèque, hein, avec une charmante alliée, et il dit « ça aurait été trop beau que je tombe sur un classement alphabétique à la lettre D, là, paf ». Donc on peut gloser en nous mettant dans la tête de Rivette à l'époque du tournage de sa religieuse, hein, « ça aurait été trop beau de tomber sur l'objet de sa quête à la lettre D, D comme Diderot », qui par ailleurs est, on s'en souvient, l'auteur de l'encyclopédie aussi. Donc, à partir de ce film, hein, qui l'a ennuyé, il y a une forme, sinon d'improvisation totale, on sait que c'est pas le cas, mais du moins de goût de la découverte, de l'imprévu qui va l'emporter, définissant donc une nouvelle règle du jeu qui s'invente au fur et à mesure. Dans Jeanne la Pucelle, donc, Rivette hein, mais, enfin, illustre hein, cette nouvelle méthode, hein, cette nouvelle façon de vivre et de faire des films. Alors, cette entrée dans la fiction du metteur en scène, dans Jeanne la Pucelle, elle semble comme une réponse à un appel à l'aide de sa créa de Suzanne Simonin dans le film. Hein. Donc, vous montrez une capture, appel à l'aide ou geste caméra, où on voit Suzanne Simonin donc couchée par terre, mais c'est pas regard caméra, c'est vraiment posture caméra. Hein. Elle regarde vraiment la caméra tout en disant mon Dieu, éclairez-moi. Et c'est comme si à quelques films d'intervalle, en fait. Rivette lui répondait en devenant son confesseur. Alors, par ailleurs, j'insiste sur le fait que donc, à partir de là, Rivette ne va pas être un manipulateur qui est au-dessus de la mêlée, mais ça va être un complice. Et je voudrais vous montrer la capture d'une image qui figure au début du film Suzanne Simonin, qui en fait renseigne un petit peu sur le mode de vie dans les couvents à l'époque, hein, au XVIIe siècle, et on voit qu'il y a toute une série de jeux en cours, et on voit une sorte de marionnettiste avec des petites figurines voilà, qui illustre une espèce de surplomb. Or, après, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus. Il n'y a pas un auteur qui domine. Enfin, c'est autre chose. Hein. Alors, cet enrôlement également, on peut le, au sens de faire entrer dans le jeu, au bon sens du terme, hein, on peut le trouver aussi dans la façon de jouer avec les caméos, par exemple, de Bonitzer. Hein, qui est donc un des doubles de Rivette. Hein. Alors, j'ai choisi Bonitzer, mais j'aurais pu en choisir d'autres. Hein. Il y a eu d'autres scénaristes. Hein. Bon, alors, on va regardez, donc, par exemple, celui-là, donc, dans Jeanne la Pucelle, hein, puisque je déco en religieux, on le voit à côté de Jeanne la Pucelle en sorte de scribe, hein, alors un peu, bah, évidemment, c'est une scène, il est muet, mais c'est très sérieux, voilà. Et il me semble que dans les caméos de Bonitzer, va se travailler un petit peu quelque chose qui va rendre plus léger cette rigidité. Donc, un autre exemple où il est aussi très rigide, là, c'est dans La Bande des Quatre, où il est en policier, en civil, à la fin, il vient embarquer, alors, c'est moi qui joue sur les mots, mais on a le droit avec Rivette, du coup, qui vient embarquer Constance Dumas au sens de, qui vient l'arrêter, hein, la fervente professeure de théâtre. Et je voudrais rebondir à propos de cette capture, hein, sur la fin de l'article de Rivette en 64 sur les enfants terribles. Hein. Espérant par ce jeu pouvoir inscrire enfin, non cette vérité, du moins cette absence, d'un poète évanoui, mais qui nous laisse les signes de son acte, hein, au moment où le professeur de théâtre s'évanouit pour, malgré tout, laisser à ses élèves quelque chose quand même hein, de concret hein, et de vivant. Et alors, autre exemple de Bonitzer que je n'ai pas pris la capture, mais dans Hurlevent, il apparaît sous les traits d'un joueur qui joue avec le frère de Catherine, hein, quand Roque vient régler ses comptes avec le frère, et il est question de besoin d'argent pour relancer la partie. Donc on voit comment le jeu, ici, va relancer ce qui était sérieux, trop grave, hein, le scribe, etc., quelque chose d'autre, donc la figure du joueur. Et un dernier emploi permet d'envisager aussi autrement la fonction de l'écrit dans le rapport, dans sa place dans les tournages de Rivette, hein, puisque dans Au bas fragile, il joue un petit buveur, un voisin qui est en fait avec qui une des héroïnes va aller boire. Donc il s'agit de de boire et d'être ivre avec lui. Donc ce motif de l'ivresse qui corrige la rigidité, motif de l'ivresse dont Diane Arnoux a aussi parlé tout à l'heure, enfin qu'on retrouve dans d'autres films. Voilà. Donc pour conclure, à qui appartient le film en définitive? Le film appartient en partie à Gruau, et moi il me semble que Suzanne Simonin, avec son air hagard parfois dans le cachot, sa robe, fait penser, préfigure déjà l'enfant sauvage auquel collabore Gruau. Mais j'espère avoir démontré aussi que le film appartient bel et bien à Rivette, ou en tout cas qu'il se l'est réapproprié dans la suite de son œuvre, en substituant à l'enrôlement, qu'il soit d'ordre religieux ou politique, et je pense aussi à l'affaire, à la censure, à toute l'affaire à laquelle a donné lieu le film, donc en substituant à l'enrôlement, un enrôlement librement consenti de l'acteur-joueur. Finalement, on peut dire que Suzanne Simonin, c'est un film à grand spectacle, comme le voulait Borgard au début, mais il y a eu un détournement de la commande qui s'est produit, puisque c'est grand à l'échelle d'une œuvre, un sujet qui déborde la contrainte d'un seul film, qui s'émancipe donc du carcan d'une adaptation précise. Si Rivette est comparable à la religieuse, c'est par sa ferveur, la religieuse, c'est par sa ferveur catholique, et lui, c'est par sa ferveur et sa foi, donc dans le cinéma, évidemment, pas au sens catholique du terme. Et en revanche, ils ont aussi en commun leur obstination suicidaire. Et ça, c'est une expression de Gruau à propos de Rivette, réalisateur, entre autres pour le premier film, Paris nous appartient, qui était complètement un pari complètement fou pour le moment de se mettre à la réalisation. Donc, obstination suicidaire, dont le versant est aussi la mélancolie. La religieuse est seule, ce qui est rare dans les films de Rivette, où on est souvent par pair ou par groupe. Donc c'est un film atypique dans sa filmographie, mais c'est un film atypique surtout du point de vue de la méthode, donc tournant à partir duquel Rivette va donner davantage libre cours à une inspiration imprévue, à un lyrisme et à une invention vivante. Alors juste un petit clin d'œil, j'ai mis la capture de la mère qui dévide sa pelote. Vous savez, on sait que Rivette était très attachée au terme pelote. Et évidemment, cette pelote qui est très rigide, qui préfigure le fouet ensuite de la mère supérieure sadique plus tard dans le film, et qui devient, au fil de l'œuvre de Rivette et au fil de la vie, on voit Jeanne Berkin dans 36 vues du Pic Saint-Loup en équilibre précaire, ce qui fait l'acrobate sur un fil. L'œuvre illustre combien Rivette a fait sien cette histoire, faisant le récit d'une absence de vocation religieuse d'un personnage qui dit non, mais ne peut exister pour lui-même en son nom propre. Rivette explore sa propre vocation de cinéaste, ayant besoin de la complicité d'une communauté. Les cloches sont autant un appel qu'un reniement, et nous convient ce faisant à un rituel cinématographique dans l'œuvre, qui s'évade pourtant de la répétition originelle. De Suzanne Simonin à 36 vues du Pic Saint-Loup, le bruit des cloches s'allège indéniablement. Nous qui croyons avoir le temps devant nous, nous sommes en fait comme la petite héritière dans le film Norrois, qui chantonne qu'elle a tout son temps, la petite fille là, voilà, alors que l'attend une fin certaine puisqu'elle meurt peu après dans le film. Et donc, on peut dire, pour reprendre les propos donc d'un personnage dans le film Duel, ils sont cons, c'est mortel. Et je vous laisse sur cette image du chat dans l'histoire de Marie et Juliette qui regarde caméra et qui se dit peut-être ils sont cons, c'est mortel, ou peut-être ne se dit-il pas ça. En tout cas, on a entendu résonner sa clochette très légère tout au long du film. Voilà, je vous remercie.